Alors j'aimerais vous parler ce matin du cheminement d'un homme de l'Ancien Testament. Il a vécu, on peut dire, un long cheminement qu'il a façonné afin de devenir utile entre les mains de Dieu. Et c'est Moïse. Donc on va regarder Exode chapitre 2 versets 1 à 6 pour commencer. Exode 2, 1 à 6. Vous pouvez le prendre, oui, ça sera affiché derrière moi. 1 à 6. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de poix. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit « C'est un enfant des Hébreux ». Donc ce fils de Lévi, il n'avait que 3 mois et il s'est retrouvé sous l'aile de la fille de Pharaon. Moïse était issu d'une famille d'esclaves. Il était probablement né dans une demeure pitoyable, peut-être dans une tente déchirée. Mais une fois sevré, il s'est retrouvé au palais royal de Pharaon. Il a probablement été enseigné au Temple du Soleil. Les historiens nous rapportent que c'était une école ou un centre d'éducation qui enseignait, qui formait en fait tous les fils de notables. On y apprenait la langue des hiéroglyphes. Moïse a été plongé dans la sagesse des Égyptiens. Il a été immergé dans cette civilisation riche, dans les sciences, dans l'astronomie, la médecine, la philosophie. Il a probablement appris aussi tout l'art, culinaire, musical, décoratif. Alors Moïse, au départ, n'était pas grand-chose selon ce monde. Il était rien. Il était voué à une vie d'esclave pour servir les Égyptiens. Mais on peut dire par un heureux concours de circonstances ou un divin concours de circonstances, le voilà devenu prince d'Égypte. Il était rien et il est devenu quelque chose. En tout cas, quelque chose à ses propres yeux. Je vous lis dans Actes, parfois des petites références qui parlent de Moïse. Dans Actes 7, il est dit « Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Il était puissant en parole et en œuvre. » Donc Moïse était remarquable et il était remarqué. Moïse avait du charisme. Il savait parler aux hommes. On l'écoutait. C'était quelqu'un d'intéressant. C'était un meneur. Il était doué. Il réussissait les œuvres qu'il entreprenait. Et donc on peut dire que c'est l'Égypte qui a façonné ce fils d'esclave pour en faire un homme plein de sagesse, de connaissances, de fougue, d'audace. Un homme qui était sûr de lui. Et un homme, de par la formation qu'il avait reçue, voilà, il se sentait capable de faire des grandes choses. Mais Moïse était un Hébreu. Il était issu du sang d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Et donc, il ne pouvait pas se détacher de ses frères qui étaient esclaves au service de l'Égypte. Parfois, il devait regarder de loin ses frères, alors que lui, il était dans le palais de Pharaon. Et on peut croire que déjà ça résonnait, ça vibrait dans son cœur. Il ressentait déjà probablement l'appel de Dieu vers son peuple, vers l'appel qui vient de ses pères. Et c'était pas possible qu'il reste sans agir. Lui qui était un prince d'Égypte, un homme puissant en parole, en œuvre. Comment rester inactif alors qu'il voit la souffrance de ses frères? On lit encore en Actes 7, Moïse avait 40 ans lorsqu'il eut à cœur de se rendre auprès de ses frères, les fils d'Israël. 40 ans, c'est un bel âge 40 ans. C'est le passage de la force à un peu plus de sagesse. Et c'est là que Moïse se sent le plus à même d'intervenir. Il est temps d'agir maintenant. Exode 2, versets 11 à 14. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant, et voici deux Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Et cet homme répondit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous ? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse eut peur et dit, « Certainement, la chose est connue. » Alors, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé dans le cœur de Moïse lorsqu'il a vu une fois de plus un Égyptien maltraiter un Hébreu, un frère. Mais on peut deviner que c'était pas juste une réaction impulsive comme ça, puisqu'il est dit tout d'abord que Moïse regarda de côté et d'autre avant de frapper l'Égyptien. Toujours dans Actes, on lit « Moïse pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main. » Mais ils ne le comprirent pas. Alors ça signifie que Moïse, lui, avait compris que Dieu allait accorder une délivrance par sa main. On ne sait pas comment, mais il avait une conviction, voilà, Dieu va faire quelque chose. C'était clair dans son cœur. Il savait que Dieu allait l'utiliser pour son peuple. Mais c'est possible de savoir la volonté de Dieu, de la comprendre, d'en être intimement convaincu et de se tromper complètement sur le moment à l'accomplir. C'est bien d'avoir une vision, hein, mais il faut la mettre en œuvre au moment qui est choisi par Dieu. C'est ça qui est important. J'ai lu dans « Tout pour qu'il règne », peut-être vous le lisez de temps en temps, d'Oswald Chambers, donc c'est un livre de méditation. Il dit plein de choses intéressantes, hein, mais je vous cite un passage. Il dit « À l'heure actuelle, on attache beaucoup d'importance à l'activité pratique et l'on juge sévèrement les croyants qui attendent pour agir d'avoir soumis leur projet au Seigneur. On met en doute leur zèle pour Dieu. Le vrai zèle a pour fondement l'obéissance et non l'activisme alimenté par une nature insoumise. C'est une chose inconcevable, mais pourtant vraie, que certains chrétiens travaillent pour Dieu selon les impulsions de leur propre nature. Ils ne soumettent pas leurs projets et leurs actes à la discipline de Dieu. » Et là, on a une illustration avec Moïse, hein, de quelqu'un qui fonce sans être attentif à la voix de Dieu et à ce que Dieu est en train de lui dire. Et on doit toujours prendre garde de ne pas suivre ce chemin-là. C'est facile d'avoir compris quelle est la volonté de Dieu. Mais il faut se lancer quand Dieu nous donne le feu vert. C'est ça qui est important aussi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur de Moïse ? Manifestement, Moïse a anticipé le plan de Dieu. Il a vu ce qu'il fallait faire, hein, et il a voulu immédiatement le mettre en œuvre par ses propres forces. Parce que c'était évident que Dieu allait intervenir pour son peuple. Bien sûr, il y avait toutes ces promesses, hein, au travers d'Abraham, de ses enfants. Mais Moïse ne s'est pas posé des questions essentielles. Suis-je prêt pour cela ? Est-ce que c'est le moment opportun ? Est-ce que c'est le moment de Dieu ? Comment Dieu veut-il procéder pour délivrer son peuple ? Voilà, plein de questions qui étaient importantes. Il avait une connaissance grossière de la volonté de Dieu et il ne connaissait pas encore suffisamment le Dieu de ses pères, d'une part, et surtout, Moïse ne se connaissait pas lui-même. Il ne se connaissait pas encore lui-même. Exode 2, versets 15 et suivants. Exode 2, versets 15 et suivants. Moïse apprit ce qui s'était passé et cherchait à faire. Pharaon apprit ce qui s'était passé et cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian où il s'arrêta près d'un puits. Le sacrificateur de Madian avait 7 filles. Elles vinrent puiser de l'eau et elles remplirent les auges pour abreuver le troupeau de leur père. Les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse se leva, prit leur défense et fit boire leur troupeau. Quand elles furent de retour auprès de Réuel, leur père, il dit « Pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui ?» Elles répondirent « Un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers, et même il nous a puisé de l'eau et a fait boire le troupeau. » Et il dit à ses filles « Où est-il ? Pourquoi avez-vous laissé cet homme ? Appelez-le pour qu'il prenne quelque nourriture. » Moïse se décida à demeurer chez cet homme qui lui donna pour femme Séphora, sa fille. Et là, on arrive dans une nouvelle étape dans la vie de Moïse, suite au meurtre de l'Égyptien. Donc, le voilà en train de fuir Pharaon le plus loin possible au pays de Madian. Si vous regardez dans vos Bibles les cartes, pays de Madian, vous verrez peut-être un point d'interrogation. On n'est pas sûr à 100% de où se trouvait l'endroit, donc Madian. Mais on sait que c'était en direction du désert, ça c'est sûr. Et il semble que c'était au nord-ouest de l'Arabie Saoudite. Et après le faste de la cour de Pharaon, après l'abondance, après la popularité, après le succès, Moïse se retrouve soudain dans le désert. Il est dans le désert. Là, le décor n'est plus le même. Moïse, puissant en œuvre, puissant en parole, n'est plus qu'un voyageur isolé. Ses sandales se sont usées, ses vêtements se sont déchirés. Il n'était plus ce prince qui impressionnait. Il n'était plus rien, plus rien. Et c'est là qu'il va accepter de demeurer chez Réuel pour être un simple berger. Et Moïse va se mettre à arpenter le pays de Madian, le désert, pour conduire les troupeaux de son beau-père. Seul, il va connaître la solitude avec un grand S, là, seul. L'Égypte grouillée de monde. Et là, il est tout seul dans les montagnes, au milieu du désert. Personne ne s'inclinait plus en signe de respect devant lui, c'était terminé. Il n'était plus qu'un berger. Et c'est là, dans ce désert de Madian, que Moïse va commencer à sérieusement se remettre en question. Moïse pensait connaître la volonté de Dieu, mais là, il a dû tout remettre en question, en fait. Ça a été bouleversé dans son cœur, de fond en comble. Moïse pensait savoir, et là, maintenant, il ne sait plus rien. Moïse était plein d'assurance, et là, il est doutant de tout. Et c'est aussi là que Moïse va être soumis au travail du temps. Parce qu'il est resté 40 ans dans le désert de Madian. 40 ans, c'est long, hein ? 40 ans de solitude, 40 ans où il n'était plus rien par rapport à sa position en Égypte. 40 ans où Moïse semblait peut-être en complet décalage par rapport à la volonté de Dieu. J'imagine qu'il a dû se poser plein de questions, hein, ça a dû tourner. Hein, quand vous êtes tout seul dans la montagne, vous avez du temps pour réfléchir. Et pourtant, Dieu ne l'avait pas oublié. Lui avait sûrement du mal à le croire, mais c'était la vérité, Dieu ne l'avait pas oublié. Et on peut être certain que il n'y a aucun enfant de Dieu qui ne passe pas un jour par un désert. On passe tous par des déserts. Personne n'est exempt. Parce que les déserts que Dieu permet, ça contribue à notre transformation, en fait. Ça épure notre vie, ça nous sanctifie, finalement, ces déserts. Alors, ils ne sont jamais identiques les uns pour les autres. On a tous des déserts qui sont différents. Mais tous, nous y sommes passés, on a l'impression d'y être aujourd'hui, ou il y a peut-être un désert qui est devant nous. Ça, c'est quelque chose qui est certain. Et si vous regardez dans les Écritures, et vous feuilletez, vous lisez, vous voyez que les hommes de la Bible, ils sont passés aussi par des déserts. Quand vous pensez à Job, dans sa maladie, dans sa solitude, dans le deuil, c'était un désert terrible, terrible. Quand vous pensez à David, en fuite devant Saül, lui aussi, dans un désert. Quand vous pensez à Josué et Caleb, on n'y pense pas souvent à Josué et Caleb. Alors qu'ils étaient deux jeunes hommes fidèles, ils étaient fidèles à Dieu, ils voulaient faire la volonté de Dieu. Ils faisaient partie des espions chargés d'aller visiter ce pays de Canaan, pays de la promesse où coule le lait et le miel. Et ils dirent au peuple, quand ils sont revenus, c'est eux qui ont dit « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, c'est un bon pays, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays, il nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel, Seulement, ne soyez point rebelles à l'Éternel, contre l'Éternel. Mais vous savez la suite, hein? Le peuple n'a pas voulu rentrer dans le pays, et puis finalement, eh bien, ils se sont rebellés, hein? Et le résultat, c'est qu'ils ont fait demi-tour, et puis ben, ils ont commencé à tourner dans le désert. Et Josué, ainsi que Caleb, se sont retrouvés à tourner, eux aussi, pendant 40 ans dans le désert. Et c'est terrible quand on y pense, parce qu'eux, ils étaient prêts à rentrer. Eh bien, ils ont tourné 40 ans dans le désert. Et on peut se dire, mais ils ne le méritaient pas. Ils ne le méritaient pas. Et c'est vrai, ils ne le méritaient pas. Josué et Caleb ont été des victimes du peuple incrédule. Et il faut le dire aussi, parfois, nous passons par des déserts à cause du péché des autres. C'est terrible, mais ça arrive. Par exemple, une famille peut passer par un désert à cause du péché d'un seul membre de la famille. Un mari peut passer dans un désert à cause du péché de son épouse. Une épouse peut passer dans un désert à cause du péché de son mari. Parfois, ce sont des parents qui supportent une situation difficile à cause des enfants. Ou c'est les enfants, parfois, qui aiment le Seigneur et qui supportent des choses difficiles à cause des parents. C'est un désert aussi. Parfois, c'est un employé à cause d'un patron, hein? Ou vice-versa, ça arrive aussi. C'est moins courant, mais ça arrive. Et Dieu a permis le désert aussi pour Josué et Caleb. Et ils ont tourné, eux aussi, pendant 40 ans dans le désert. Et donc, c'est possible que nous soyons dans un désert avec le sentiment d'être une victime. Ce n'est pas de notre faute. Mais on sait que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et Dieu permet ces choses. Et il est souverain. On a chanté tout à l'heure, « Notre Dieu règne ». Dieu règne, il est souverain. Et quoi qu'il arrive, il n'y a rien qui lui échappe. Il ne faut pas l'oublier. Et puis, il ne faut jamais oublier également que Job a vu une issue à sa douleur, hein, et il a reçu un réconfort, hein. Dieu lui a donné une autre famille, on peut dire, hein, c'est sûr. Il a perdu ses enfants, mais il a eu une nouvelle famille. David a été délivré de Saül. C'était terminé. Il est sorti aussi de son désert et Dieu lui a donné sa bénédiction. Et Josué et Caleb, ben, finalement, eux sont entrés dans le pays promis, hein. Eux, ils ne sont pas morts dans le désert. Donc, ils ont eu aussi cette grâce. Et ça nous montre que Dieu permet des déserts, mais il y a toujours une porte de sortie à nos déserts. Il faut se souvenir de cela. Il est permis pour notre bien parce qu'il nous aime et parce qu'il veut faire une transformation profonde en nous par la solitude, par la patience, par les difficultés, par les incompréhensions aussi parfois, hein. Il y a des choses, on ne comprend pas. Mais Dieu travaille, il nous transforme, il nous façonne pour sa gloire. Alors Moïse est resté 40 ans dans le pays de Madian. 40 ans qui ont façonné cet homme et qui ont fait de lui un autre homme. Un homme humble et petit à ses propres yeux. Un homme qui avait perdu l'orgueil qui était monté dans son cœur alors qu'il était en Égypte. Regardez Exode 3, verset 1 et suivant. Exode 3, verset 1 et suivant. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point ?» L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson, et dit, « Moïse, Moïse !» Et il répondit, « Me voici !» Là, c'est la rencontre de Moïse avec son Dieu. Et c'est un nouveau virage dans la vie de Moïse. Pour nous, maintenant, c'est un vieil homme. C'est un vieil homme. Mais le voilà prêt. Le temps est passé et il est prêt pour la mission que Dieu a en réserve pour lui. Et on voit qu'il n'est plus du tout le même homme. Regardez, on le voit au verset 10 et 11. Chapitre 3, verset 10 et 11. « Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Sa réponse est un peu comme celle de Gédéon. Vous vous souvenez, Gédéon, dans le livre des juges, hein, lui aussi a dit « Mais qui suis-je » Gédéon a dit « Ah, mon Seigneur, Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël ? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Et Moïse est comme cela, c'est plus le même homme. Regardez chapitre 4 et verset 10. Il dit, Moïse dit à l'Éternel, « Ah, Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile et ce n'est d'hier ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » Moïse était un homme puissant en parole, en œuvre. Ça veut dire qu'il avait la parole facile. Il avait la capacité d'enseigner, de prendre la parole devant une foule et de convaincre. Il pouvait convaincre. Mais là, il est complètement changé. Il s'estime incapable. Il dit, je ne suis pas capable de placer deux mots ensemble. Ce n'est pas possible. Et c'est là, à ce moment précis, que Dieu va l'inviter à se lever. Dieu estime que maintenant il est prêt pour ce à quoi Dieu l'appelle. Alors il va lui donner deux signes pour convaincre Israël de l'appel qu'il avait bien reçu de Dieu lui-même. Et ces deux signes sont pour nous des images de la transformation qui s'est opérée dans le cœur de Moïse. Regardez chapitre 4, versets 1 à 8. D'abord, Moïse répondit et dit, « Voici, ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. » L'Éternel lui dit, « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Il répondit, « Une verge. » L'Éternel dit, « Jette-la par terre. » Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main et saisis-le par la queue. » Il étendit la main, le saisit et le serpent redevint une verge dans sa main. « C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. L'Éternel dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira. Et voici, sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel dit, remets-la dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein. Et voici, elle était redevenue comme sa chair. S'ils ne croient pas, dit l'Éternel, et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. Et là, on a deux signes qui sont des illustrations de l'expérience de Moïse. La verge, c'est-à-dire le bâton, hein, c'est le bâton des patriarches, c'est le bâton aussi des prophètes, c'est le bâton des bergers, hein. C'était un symbole de puissance. Alors, il y a plusieurs mots hébreux pour parler de ce bâton, de cette verge. Mais ici, c'est le mot « maté », donc en hébreu. Et « maté », c'est le bâton du voyageur. C'est celui qui servait à toutes sortes d'usages. C'était aussi le bâton du chef de tribu ou la houlette du prophète. Et puis, bien sûr, c'était aussi le bâton du berger, hein, puisqu'il était berger. Il s'en servait pour se défendre et défendre aussi son troupeau. Mais c'était aussi le bâton sur lequel il s'appuyait chaque fois qu'il montait une montagne, une colline. Et il s'était appuyé sur ce bâton pendant des décennies. Mais lorsqu'il, Dieu lui dit « jette-le à terre », là, il découvre stupéfait, il se dit oh, « c'est un serpent ». Attends, je me suis appuyé pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans sur un serpent. C'est terrible d'imaginer ça. Et on doit comprendre que ce sur quoi nous nous reposons, ce sur quoi nous appuyons tout notre corps, ben c'est parfois un serpent. C'est parfois un serpent. Parce qu'on n'en a pas toujours conscience. La verge de Moïse, elle représente la confiance qu'il avait en lui-même. La confiance qu'il avait en sa sagesse humaine, acquise au temple du soleil. c'était la confiance dans toutes ses expériences passées. Voilà, tout ce qu'il avait fait à la cour de Pharaon. C'était la confiance en sa force, sa puissance propre. Moïse se sentait à la hauteur pour délivrer le peuple d'Israël. Mais il n'avait pas confiance que la confiance en soi-même, eh bien, c'est un piège et c'est parfois un serpent qui est dangereux. Vous connaissez ce passage dans les Proverbes où il dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel. Détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. » Et Moïse s'est d'abord petit à petit construit une confiance en lui-même et il a développé un orgueil finalement hein, qui lui faisait croire qu'il était capable de très grandes choses pour l'Éternel son Dieu. Et il ne faut jamais oublier que notre pire ennemi, ben c'est nous. Nous sommes notre ennemi. D'abord avoir conscience que c'est nous notre ennemi. Alors comment être délivré de soi-même ? Difficile ça, hein ? En fait, il n'y a que Dieu qui a le secret pour nous délivrer de nous-mêmes. Nous, on n'a pas le secret. Hein ? Il n'y a que lui qui le sait. Et parfois, il nous laisse faire nos propres choix, il nous laisse faire nos propres erreurs et il permet parfois un désert. Parce qu'il va œuvrer dans le désert. Un désert qui va anéantir notre propre confiance en nous-mêmes, notre propre force, notre propre sagesse, notre capacité hein, à vouloir faire finalement sans dépendre de Dieu. L'Éternel a dit à Moïse, « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Il répondit, « Une verge. » L'Éternel dit, « Jette-la à terre. » Et il y a un moment dans la vie chrétienne où il faut jeter sa verge à terre. On la jette. On ne veut plus. Parce qu'elle est fourbe, elle est dangereuse et elle peut finir par nous mordre comme un serpent. Et si on le fait, si on jette son bâton à terre, alors l'Éternel pourra dire « Étends ta main, saisis-le par la queue. » Il étendit la main, il le saisit et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est beau, hein ? Et la confiance en soi, l'orgueil, la pensée que nous sommes capables, tout ça, c'est un serpent qui est dangereux. Mais quand on en a pris conscience, quand on commence à être vraiment très méfiant de soi-même et qu'on reste vraiment dépendant de Dieu, alors Dieu peut nous dire de saisir le serpent par la foi. C'est-à-dire maintenant d'oser agir en fait, oser agir, mais en regardant vers le Seigneur et en dépendant du Seigneur uniquement. Et là, il y a un miracle. Le miracle se produit. La verge redevient une verge solide, ferme, stable, une verge sur laquelle on peut vraiment s'appuyer avec confiance. Mais ce bâton, c'est plus notre bâton. Maintenant, c'est la verge de Dieu. C'est ce qu'il dit. Exode 4, verset 20, regardez. Il dit, « Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes et retourna dans le pays d'Égypte. Il prit dans sa main la verge de Dieu. » C'est plus la sienne. Il prend la verge de Dieu. Maintenant, Dieu lui a accordé de pouvoir se reposer sur lui-même, sur le Dieu Tout-Puissant. Et là, on a une image d'un homme qui est saisi par Dieu, qui est rempli, qui est conduit par Dieu. Et quelle grâce pour nous, hein, enfants de Dieu, quelle grâce de vivre cela, de comprendre cela, de l'appliquer dans notre propre vie. Et c'est quelque chose dont on a tous besoin. Il ne faut pas se confier dans sa sagesse, se confier uniquement dans la sagesse de Dieu. Et se confier en lui pour notre avenir, pour nos projets, pour nos espérances. Et il aplanira nos sentiers. C'est ce qu'il dit. Après, l'Éternel dit encore à Moïse, « Mets ta main dans ton sein. » Il l'a mis dans son sein, puis il la retira, et voici sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. Terrible. Là, on a le sein, c'est là où se trouve le cœur. Et la main, ça symbolise ce que nous faisons, c'est l'action. Et la lèpre, eh ben, c'est l'image du péché. Et durant ces 40 années dans le désert, eh bien, Moïse a pu apprendre que les actions qui sortent de notre cœur pécheur, ben, elles sont péché. Ce qui sort de nous-mêmes, ce n'est que péché. Et si on veut aller agir par nos propres forces, par l'énergie de notre cœur naturel, alors nos actions, elles ne sont que lèpre blanche. C'est terrible, hein ? Lèpre blanche. Et on va pécher en prétendant peut-être vouloir faire la volonté de Dieu. Moïse voulait bien faire lorsqu'il est allé vers ses frères. Mais le seul moyen qu'il a trouvé pour délivrer ses frères, qu'est-ce que c'était ? Tuer un Égyptien. Et puis après, cacher son cadavre sous le sable. Hop, hop, tranquille. Et on croit parfois qu'on peut faire des œuvres charnelles en pensant ça va passer inaperçu. Personne ne le verra. Parfois, dans le service de Dieu, on veut tuer l'Égyptien pour accomplir ce que nous pensons être la volonté de Dieu. Et puis ensuite, nous cachons le cadavre dans le sable. Hein ? On a des manières, hein, de cacher le cadavre. Et on se dit, personne ne va le voir. Ça va passer inaperçu. Mais de même que l'Égyptien, eh ben, il a été retrouvé, de même, le chrétien charnel, il ne peut pas passer pour spirituel. Même en faisant des actions pour servir Dieu, même en faisant bonne figure, si Dieu n'y est pas, ben Dieu n'y est pas. Et ça finit par sauter aux yeux. Nos œuvres, issues de notre nature propre, c'est terrible, hein, mais elles sentent la mort. Elles sentent la mort. On sent, c'est pas ça. Et il ne pouvait rien sortir de bon du cœur de Moïse qui était mauvais. Il n'est sorti de lui que ce qui est naturel, en fait, son péché, le péché. Est-ce que ça ne vous est pas déjà arrivé à vous ? Vous voulez servir le Seigneur, vous voulez être utile, vous voulez accomplir sa volonté, mais vos actions sont marquées par votre nature charnelle. Il y a quelque chose qui voilà, c'est... Pour quelle raison ? Dieu nous l'explique dans sa parole. Il dit que notre cœur est mauvais. Le cœur est tortueux par-dessus tout, il est méchant. Dit Dieu. Il est méchant. Mais ailleurs, il dit aussi en Ézéchiel, « Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Ça signifie que Dieu veut changer notre cœur. Il veut nous donner un cœur nouveau, un nouveau cœur, un esprit nouveau. Un cœur qui ne va plus faire ce qui lui passe par la tête. Un cœur qui ne vit plus pour lui-même, qui ne se repose plus sur lui-même, mais un cœur qui est conduit par le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Et il n'y a que comme cela qu'à ce moment-là, ben, les actions, elles peuvent être pures, elles peuvent être saintes, elles sont sanctifiées. L'Éternel dit à Moïse, « Remets ta main dans ton sein. » Il l'a remis dans son sein, puis il la retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme sa chair. Impeccable. Et un cœur qui est transformé, racheté, purifié, alors ben, les actions, elles sont aussi purifiées. Et Dieu avait besoin d'avoir le contrôle de Moïse avant que Dieu puisse réellement... lui faire faire sa volonté de la bonne manière. Il fallait d'abord commencer par là. Et c'est pareil pour nous. Il faut que le Seigneur ait vraiment le contrôle de notre personne pour qu'il puisse vraiment se servir de nous dans des actions. Sinon, qu'est-ce qu'on est ? On est un outil qui échappe de sa main. Vous prenez un marteau et hop, le marteau, il saute de votre main. Ben, c'est ce qui se passe. Hein. Quand on n'est pas dépendant et attaché au Seigneur et vraiment à son écoute, ben, on est un outil qui n'est pas parfait dans les mains de Dieu. Un outil qui n'est pas encore fiable. Si l'homme est encore trop présent en nous, Dieu ne peut pas nous utiliser encore comme il le souhaite. Mais le plan, Eh bien, c'est justement de nous transformer et nous donner un cœur qui est dépendant. Il dit, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte. Et ce je ferai en sorte, ben, c'est la sanctification en fait. Et ça, c'est pas comme ça, hein. C'est un long processus, un long processus. Petit à petit, ça prend des mois, des années, parfois des décennies. Et puis, on a jamais fini. Donc, on peut dire une vie. Ça prend une vie. Et l'action du Saint-Esprit en nous, par le biais des épreuves, par le biais des déserts, eh bien, il transforme petit à petit notre vie jusqu'à ce qu'on jette notre verge par terre. On dit, non, je ne lui fais pas confiance, moi. Hein. Terminé. Aucune confiance en moi-même, en ma propre réflexion. Et l'œuvre se poursuit, et Dieu dit maintenant, reprends le bâton, reprends le serpent, et il redevient un bâton. Alors je me permets de vous poser la question, est-ce que Dieu vous a donné d'abord un cœur nouveau ? C'est là, faut commencer par là, hein ? Est-ce qu'il a mis en vous un esprit nouveau ? Est-ce que vous avez placé votre confiance en Jésus-Christ comme votre sauveur, votre Seigneur ? Ça, c'est la conversion à Christ, hein, et c'est la seule chose qui puisse sauver nos vies. Christ est mort, Christ est ressuscité pour nous pardonner, pour changer notre vie. Mais il faut se repentir, il faut l'accepter, le recevoir dans son cœur. Et à ce moment-là, et bien après, Dieu transforme notre cœur, il le régénère, et là, et bien, il peut faire cette œuvre de sanctification et finalement se servir de nous de la bonne manière. Alors Moïse, pour conclure, va donc se retrouver devant le pharaon d'Égypte pour réclamer la libération du peuple de l'Éternel. Et là, eh bien, Dieu va se servir de lui par des prodiges, des miracles, vous connaissez hein, tout ce passage de l'Exode. Et durant les 40 années suivantes, Moïse va conduire tout le peuple d'Israël. Et on peut dire que c'était 40 ans dans une communion qu'il ne connaissait pas avant. Hein. Il connaissait l'Éternel. Mais là, ça va être une communion intime, une communion proche, unique. On peut même dire amicale. C'est fou. Face à face, avec son Dieu, le Dieu des cieux. Mais c'était possible maintenant parce qu'il était devenu un homme qui est malléable entre les mains de Dieu. Est-ce que c'est le cas pour nous aujourd'hui? Où en sommes-nous aujourd'hui? Il y a un prédicateur célèbre qui a dit, Moody, il a dit, Moïse a passé 40 ans à penser qu'il était quelqu'un, 40 ans à penser qu'il n'était rien, et 40 ans à découvrir ce que Dieu pouvait faire avec quelqu'un qui n'est rien. C'est beau, hein? C'est une réalité. Et cette description de la vie de Moïse en trois périodes de 40 ans ressemble finalement aux étapes de la vie chrétienne. Ce sont nos vies à nous. Heureusement, ça ne dure pas 40 ans. Mais bon, lui, il a vécu 120 ans. Hein? Donc, si on réduit à notre échelle, ça peut durer longtemps quand même. Hein? Ça peut durer longtemps. Où on en est avec le Seigneur? Est-ce qu'on croit que notre verge est fiable, elle est forte et allez, on y va? Et on s'avance? Ou bien on en est à devoir la jeter par terre, hein, parce que Dieu nous fait comprendre c'est un serpent dangereux, il ne faut pas t'appuyer dessus. Ou bien on en est à, Dieu lui dit, reprends ta verge. Maintenant c'est moi qui veux agir au travers de toi. Tu ne peux pas, mais moi je peux. Si tu le fais, alors ben, tu verras Dieu se manifester.